Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
En RDC, bon nombre de personnes handicapées vivent dans des conditions précaires. À la base, il y a des difficultés d'accès à l'emploi et aux besoins sociaux de base. La plupart d'entre elles courent les rues et vivent presque dans la mendicité. Alors qu'il y a même une journée internationale des personnes handicapées, c'est chaque 3 décembre de chaque année. Cette journée est consacrée à ces personnes vivant avec handicap. On verra avec notre invité quels sont les avancées enregistrées dans la promotion des personnes vivant avec handicap en RDC et surtout on va également parler de ce plan quinquennal dont on a parlé à une certaine époque qui va de 2016 à 2021. C'est bien cela, madame?
Oui, c'est cela. Et pour la protection et la promotion des personnes.
Voilà, on aura à savoir quelles sont les avancées par rapport à ce plan quinquennal. Nous rappelons le numéro des contacts. Si vous voulez appeler, n'hésitez pas à composer les 099-706-6394. Nous disons merci à toutes ces personnes qui ont déjà réagi sur la page Facebook Okapi Service par rapport à ces sujets. Comment promouvoir les personnes vivant avec handicap, comment améliorer leurs conditions de vie. Nous allons découvrir quelques-unes de ces réactions tout au long de cette tranche consacrée à cette partie interactive. Voilà, Madame Alice Mirimo, vous êtes directeur général du Fonds national de promotion et de services sociaux. Est-ce qu'on peut rapidement nous brosser à un état de lieu même sommaire sur les conditions de vie des personnes handicapées en RDC?
En fait, rien n'est même à démontrer parce que il suffit de vous promener sur le boulevard du 30 juin pour voir combien nos compatriotes aveugles sont dans la mendicité et souvent d'ailleurs dans l'indifférence totale même de tous ceux qui passent. Il y a d'autres qui sont même tamponnés, leurs enfants n'arrivent pas à aller à l'école parce qu'ils doivent accompagner les parents à aller mendier et donc c'est toute une génération qui est sacrifiée. Ils sont nombreux dans des situations précaires. Hein. Dernièrement, d'ailleurs, le jour où le ministère des Affaires sociales a célébré, parce que la journée du 3 décembre a été célébrée par le ministre des Affaires sociales le 8 décembre, avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce même jour, il y a une équipe de personnes handicapées que j'ai trouvées devant mon bureau. Ce sont des sinistrés de Brazzaville. Et ça fait déjà plus de 6 mois que le Fonds national de promotion et de services sociaux a présenté un état des besoins pour eux, pour qu'ils quittent la rue. Ils sont tout le temps en dispute avec la police qui doit les évacuer là où ils dorment, même les sols, sans abri, livrés à toute forme d'intempérie. Et ce document n'a jamais quitté la table du ministre du Budget. Et donc, ce qui fait mal, c'est l'indifférence au fait auquel nous faisons face. Et cette indifférence, nous l'avons quand même observée. Ça fait mal. Au niveau du Fonds national de promotion et de services sociaux, nous restons convaincus qu'un jour, ça va aller. Parce que notre détermination fait que certaines actions, quand même, sont en train d'être vues. Quand nous étions ensemble à la célébration avec tous les partenaires, et nous étions d'ailleurs avec le ministre d'État, le ministre de l'Emploi, parce que cette année, le thème national, c'est pour une société inclusive en RDC par la promotion de l'emploi des personnes handicapées. Et donc, nous avons vu ensemble, malgré que le Code du travail consacre la non-discrimination à l'emploi suite à la situation physique, ou suite même au handicap, c'est bien dit dans le Code du travail, mais nos compatriotes sont discriminés. Il y a ceux qui ont eu quand même de l'emploi, mais on les compte du doigt. Et donc, il y a eu beaucoup de détermination, des décisions qui ont été annoncées par les deux ministres. Ils ont décidé, par exemple, de prendre un arrêté interministériel pour organiser l'emploi pour personnes handicapées. Au cours de cette réunion, les statistiques ont été annoncées. Et parce que quand nous avons fait la table ronde du 2 au 4 juin 2016, qui était d'ailleurs patronnée par le chef de l'État, nous avions reçu les personnes handicapées qui sont venues de toutes les 26 provinces. Avant cette table ronde, le Fonds national de promotion et de services sociaux avait organisé une enquête qualitative dans nos anciennes provinces, qui sont aujourd'hui 26.
Oui.
Et donc, nous avons pu avoir la situation de nos compatriotes avec handicap en confrontant leurs besoins par rapport aux thèmes qui sont développés dans la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Parce qu'aujourd'hui, on a l'avantage que cette convention, notre pays fait partie grâce aux actes qui ont été faits, non seulement par le chef de l'État, mais aussi par le Parlement. Et le chef de l'État a tout couronné parce qu'il a signé l'instrument d'adhésion, donc les actes de ratification. On est donc tenu de mettre en œuvre cette convention dans notre pays. Pendant donc toutes ces recherches d'informations, on est tombé sur un chiffre qui nous a tous inquiétés,
oui,
qui nous a vraiment alarmés, où à peu près 13 millions de Congolais vivent avec handicap. Si vous faites un calcul rapide, c'est autour de 18% de la population. Ce n'est pas un chiffre facile ou un petit nombre. Ça doit nous interpeller tous parce que c'est pas normal que notre population soit aussi affectée et nous gardons l'indifférence, ça ne va pas. Parce que...
Alors, maintenant, quand vous parlez de ces chiffres, il faut dire que c'est déjà alarmant. Lorsqu'on parle de 13 millions de personnes qui vivent avec handicap, on imagine hein, que si...
Parce que parmi eux, il y a les soldats blessés de guerre, il y a beaucoup de cas qui sont venus de polio, beaucoup de maladies, il y a des gens dans leurs déplacements internes massifs suite au conflit qui se sont retrouvés avec des accidents et consorts.
Alors on se rend compte que le tableau est vraiment noir, mais au niveau du fonds national de promotion des services sociaux, il y avait cet excellent plan stratégique 2016-2021. Qu'est-ce que l'année de ces plans?
Quand, à l'occasion de cette célébration, si les gens visitent ma page Facebook,
oui,
ils vont découvrir, j'ai publié dedans le rapport détaillé du ministère des Affaires sociales où nous expliquons comment nous avons parcouru tout un processus de mettre en place des mécanismes pour l'inclusion socio-économique de nos compatriotes avec handicap. C'était depuis le 3 décembre 2010. Et tout a été tellement bien chronométré parce qu'au fait, au niveau du ministère des Affaires sociales, la stratégie c'était de confier au Fonds national de promotion des services sociaux, qui est un établissement public en charge du bien-être social de la population, lui confier la coordination de tous ces processus. Et donc j'ai eu l'honneur de coordonner ce processus. Oui, nous avons d'abord en 2012 reçu du gouvernement le plan stratégique et financier du Fonds national de promotion des services sociaux, où sont répertoriés au moins tous les projets sociaux prioritaires. Et parmi ces projets, il y avait un projet spécifique pour nos compatriotes avec handicap, avec ces états généraux qui ont été clôturés par la table ronde qui s'est passée en juin 2016. Et donc, nous avons l'avantage que notre plan stratégique a donné naissance, je peux dire, à un plan stratégique spécifique de protection et de promotion des personnes handicapées 2016-2021. Mais la difficulté maintenant, c'est que ce plan donc spécifique ne décolle pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de ressources. Ok, on peut me dire là que il n'y a pas de ressources, tout le monde est concentré aux élections et tout. Ok, on peut peut-être le consentir. Mais au niveau du Fonds national, nous avons présenté des pistes, des ressources. Parce que dans l'entretemps, la Caisse nationale de solidarité, qui est logée au Fonds national de promotion des services sociaux, doit collecter un certain nombre de ressources auprès des sociétés qui évoluent dans le domaine extractif, les sociétés minières et les sociétés pétrolières et les autres. N'oubliez pas que les activités extractives font partie aussi des activités qui sont à la base de plusieurs cas de handicap. La pollution a beaucoup de problèmes. Et donc, ils doivent en principe, ils ont un rôle de redevabilité, ils doivent en principe contribuer à atténuer tous ces risques de handicap. Mais il se fait que il y a un certain nombre de mesures qui devaient être prises par le Premier ministre. Il y a un certain nombre de mesures qui devaient être prises par le ministre de Finances, le ministre de Budget, pour que le Fonds national collecte réellement des financements, non seulement des financements extérieurs, même des financements au niveau interne. Alors, c'est à ce niveau-là qu'il y a eu un grand silence de la part des autorités attendues. Et j'ai la joie aujourd'hui de vous dire que depuis le 19 octobre 2017,
oui,
le chef de l'État, par l'entremise de son directeur de cabinet, a écrit au Premier ministre pour lui demander de donner suite en toute diligence sur toutes ces solutions proposées. Parce qu'on ne peut pas rester dans la léthargie, on ne peut pas rester dans l'attentisme. Vous savez que nul n'est à l'abri. Vous savez que nous tous, nous sommes exposés au handicap. À tout moment, nous pouvons le devenir. On peut piquer une crise d'AVC, on peut faire l'accident et on peut devenir handicapé. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on va agir. Il y a aussi les questions pour les albinos qui ont été intégrés.
Donc, jusque-là, madame, rien ne bouge encore malgré ce dont vous avez dit. S'il faut parler d'une injonction du chef de l'État.
C'est pratiquement une injonction du chef de l'État.
Et rien n'est encore fait jusqu'à présent, c'est ça?
Moi, j'ai fait une lettre de demande d'audience auprès du Premier ministre parce que le 18 juillet, il m'avait reçu.
Oui.
Et il avait promis qu'il allait donner la solution. Le 19 octobre, le président de la République lui-même le lui demande parce que il est là pour le social et les élections. Et c'est le plan social dont il est question maintenant. Il est logé au Fonds national de promotion et de services sociaux. Le ministre des Affaires sociales, celui qui supervise ce plan social. Et donc, je ne comprends pas comment on doit rester dans un débat sur les élections et ignorer le débat sur le social parce que c'est ce débat qui est déterminant. En tout cas, nous tous, nous allons vers les élections. Mais n'oublions pas les électeurs, parce que c'est d'eux dont il s'agit aujourd'hui.
Voilà, madame Alice, on va poursuivre avec vous. Je rappelle que pour ceux qui viennent de nous joindre sur la fréquence de la paix, nous parlons de comment promouvoir les personnes, comment améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec handicap. Nous en parlons avec Alice Mirimo, directeur général du Fonds national de promotion des services sociaux. Nous avons déjà des auditeurs en ligne, Zola qui nous appelle de Kananga, Ngoy également qui est à Kananga, Wesley qui est également à Kananga. J'aimerais bien dire, faire un coucou à tous ces auditeurs du Kananga, qui, attends, ils sont déjà trois. Je leur dis simplement, toi, ça qui dit là. Alors, on va déjà avec le premier auditeur, Zola, qui est à Kananga. Zola, bonjour.
Bonjour, bonjour, Dodi Daniel Ngachamba.
C'est Marcel Ngombo à l'antenne. Allez-y, Zola, quelle est votre question?
Oui, Zola, c'est Dembojima, il n'est pas de Kananga, c'est Dembojima, précisément en ville Meba.
Ah, vous êtes en Bujima, voilà, merci, allez-y, oui. On vous écoute, Zola.
Oui, j'ai trois petites préoccupations.
Oui.
Oui, la première, c'est celle-ci. Pourquoi vous avez préféré démettre seulement une journée propre aux handicaps, mais aussi pas pour non les handicaps?
Zola, vous avez dit?
Oui, pourquoi vous avez préféré seulement démettre seulement une journée propre aux handicaps? Mais pas aussi une journée propre aux non-handicapés.
Allez, Isola, la deuxième question.
Oui, quel est l'avantage de cette journée des handicapés?
Oui.
Oui, des trois. Maintenant, un aveugle, est-ce qu'un aveugle, on peut aussi l'ingliner dans cette catégorie déjà des handicapés?
Merci, Isola, depuis Mbujima Ngoy, vous êtes à Kananga. Bonjour, Ngoy.
Bonjour, Marcel.
On vous écoute, quelle est votre question?
Oui, je pense très bien que ce sujet est tellement pertinent concernant ce que nous vivons quotidiennement ici à Kananga. Nous sentons très bien que le monde d'aujourd'hui, appelé à former des gens dans des sciences, appelé à former des gens pour satisfaire les besoins des individus dans des sociétés, cela n'exclut pas que seul est appelé à travailler, seul ne pas appelé à travailler. Mais ce que je suis en train de constater dans mon environnement ici à Kananga, je trouve que j'ai mon frère qui a terminé en technique de laboratoire ici à l'ISTEM. Lorsqu'il a terminé, après tout, il est allé solliciter du boulot. On a vérifié que le dossier était complet, mais une chose, c'est que le métier était handicapé. C'est ça ce qui a fait à ce que le métier ne puisse pas être engagé. Lorsqu'on a essayé de suivre les dossiers, on a trouvé que c'était flou. On ne voulait pas l'engager. Deuxième chose, dans une même institution, un infirmier qui va solliciter du boulot, on trouve qu'il a des défauts sur son corps. On dit, mais on ne peut pas l'engager. Au cas où il va recevoir une personne agitée de la malaria, est-ce qu'il saura les soigner? Donc, ce sont des problèmes qui se posent dans notre environnement. Et la première question, je veux vous demander, qu'est-ce que l'État a préparé pour la vie de ce genre de personnes? Merci,
Ngoyi. Depuis Kananga, on reste dans cette même ville pour accorder la parole à Wesley. Wesley, bonjour.
Bonjour, Marcel Ngombo, merci à l'invité, aussi à tous mes prédécesseurs qui ont déjà émis leur point de vue. Je suis très ravi d'entendre madame parler avec beaucoup d'inquiétude, et surtout quand elle a donné un bilan très frappant, elle parle de 13 millions de personnes vivant avec handicap. Voilà combien ça blesse, mais moi j'ai déjà compris qu'elle voulait pleurer là au studio. Ça touche. Et elle a fait un simple calcul, ça lui a donné 18% de la population. Et chose grave, il n'y a aucun mouvement. Mais ici au Kassai Central, Marcel, l'handicap c'est peut-être personne, un albinos, hein, pour nous qui sommes ici au Kassai, pour parler de l'handicap. On voit seulement l'albinisme, voilà, personne atteint de l'albinisme. Donc un infirme, un boité, un borgne, un aveugle, bon en fait ce n'est pas un handicap pour le Kassai Central. Il n'y a aucune activité, même quand je vous parle, il n'y a aucune activité qui semble être initiée pour peut-être éveiller la conscience de nos êtres patriotes, bien qu'ils soient handicapés. Et ils ont besoin de la vie, ils doivent avoir les droits comme nous autres, comme tout le monde, mais en fait ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas peut-être bien contrôlés par le ministère de la santé, s'il faut le dire. Alors ma question est de savoir, madame, avec beaucoup d'inquiétude, pour que peut-être certains secteurs de la vie en République démocratique retrouvent une vie normale, il faut qu'on passe aux élections. Alors, vous nous dites que les élections seront bel et bien organisées. À quand? Et quelles sont les garanties? Parce qu'on connaît les manœuvres, on connaît tout ce qui s'est fait pour que les élections soient organisées.
Wesley, s'il vous plaît. Wesley, s'il vous plaît, la question d'organisation des élections, c'est pas ça la question du jour avec madame. Madame, c'est vrai, il a dit que les organisations, c'est bon de les organiser, mais il faut également penser aux électeurs, donc le social des électeurs. Donc s'il faut parler de l'organisation des élections, c'est pas ça le sujet du jour. En tout cas, merci d'avoir participé à Wesley depuis Kananga. Et j'en profite pour lire rapidement quelques réactions qui nous sont parvenues sur la page Facebook d'Okapi Service. Et l'affligeance Mbala qui écrit des Kinshasa, nous écrit ceci. Les personnes vivant avec handicap ont droit d'y jouir de tous les droits de l'homme consacré dans notre constitution, au même titre que les autres citoyens, dans la pratique, leur accès aux institutions est fictif. Il y a également cette réaction de Montou qui nous écrit ceci. L'État, il faut que l'État s'implique ou participe à la concrétisation de cette initiative. Nous devons penser à cette catégorie de personnes. Supposons que nous étions nous-mêmes nés avec une déformation. Et puis il y a également Marie-Paul Awa qui écrit ceci. Les efforts louables pour la socialisation des personnes vivant avec handicap et les malentendants sont faits dans le centre Sima, un centre de l'église catholique où on initie les personnes vivant avec handicap à l'apprentissage des divers métiers pour cette catégorie des personnes. Voilà, on revient aux réactions, enfin aux préoccupations des auditeurs qui nous ont appelés, mais avant de répondre à toutes ces préoccupations, il serait intéressant, je crois, madame, de dire un peu rapidement c'est qui, hein, lorsqu'on parle d'une personne vivant avec handicap, quelle est cette catégorie des personnes?
En fait, il y a la Convention internationale des droits des personnes handicapées qui a défini le handicap. En fait, c'est toute forme de déficience mentale, sensorielle et physique. Cette question a fait l'objet de grands débats au niveau des Nations Unies. C'est pourquoi en 2006, il y a eu cette convention qui est pratiquement le document juridique, je peux dire, principal de la question. Et ils ont été catégorisés. Il y en a des personnes malentendantes, des sourds, des aveugles. Et il y a aussi d'autres formes de handicap qui sont très spécifiques. Et des fois, on oublie ça. Et il y a l'autisme. Actuellement, au niveau du ministère des Affaires sociales, on a même intégré l'albinisme. On est aussi en train de réfléchir avec le ministère de la Santé comment intégrer aussi la drépanocytose. Et donc,
de les personnes vivant avec l'anémie SS. Oui.
En fait, nous comprenons ça comme toute forme de déficience qui touche à quelque chose ou à un organe, oui, et qui vous met dans une sorte beaucoup d'incapacité, en fait. Alors, cette convention prend la non-discrimination et le respect des droits humains pour les personnes handicapées, étant donné qu'ils jouissent en réalité de toute l'intelligence d'un humain mais qui doit être développé par un épanouissement moral, intellectuel et spirituel. Et voilà, donc les droits sont cités dans cette convention, droit à l'emploi, droit à la santé, pour les femmes, droit à la santé et la reproduction, droit à l'entrepreneuriat, droit à toute la vie. Et comme vous voyez aujourd'hui, nous sommes dans le processus des objectifs de développement durable. Ils font partie aussi des catégories bien déterminées et qui doivent bénéficier aussi de ce processus et doivent être considérés comme acteurs de développement et non comme cible. Parce que quand on le prend uniquement comme cible, ils sont juste bénéficiaires et donc ils sont dans l'attentisme et on doit venir les assister, leur donner à manger, à boire. Non, ce sont de partenaires à part entière au développement en tant qu'acteurs. Et donc tout le processus que le fonds a coordonné, c'était pour ressortir cet aspect-là, pour quitter la dimension d'assistance sociale aux personnes handicapées vers la dimension d'inclusion socio-économique.
Voilà.
Et l'année ici, oui, comme l'année a été inaugurée par nos deux ministres, les deux excellences étaient là, des affaires sociales et de l'emploi, ça sera une année pour l'emploi pour personnes handicapées.
Et bien, c'était même cette question de Zola également, qui a cherché à savoir l'avantage d'une journée consacrée aux personnes handicapées.
C'est pour conscientiser la communauté, tant nationale qu'internationale. C'est pour que les talents des personnes handicapées soient visible. C'est pour qu'on les intègre réellement en tant que personne à part entière et que la question du handicap ne fasse pas l'objet de discrimination. Par exemple, nous avons fustigé le fait que 4 ans aujourd'hui, la loi organique exigée d'ailleurs par l'article 49 de la Constitution traîne encore à l'Assemblée nationale. Je me rappelle quand nous avons fait la célébration du 3 décembre 2016 devant l'opinion nationale et internationale. L'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale, qui avait parlé au nom du président de l'Assemblée nationale, avait dit, nous avions tout suivi, que cette année ne finira pas sans que cette loi ait quitté le Parlement, parce que lui-même, le président de l'Assemblée, allait le demander à la commission socio-culturelle qui traîne, à la commission mixte qui traîne avec cette loi, de le retourner à la plénière, parce que seule la plénière peut décider. Mais qu'est-ce qui est notre tristesse de terminer l'année 2017 sans qu'il y ait même un jour un débat autour de cette loi, sans qu'on en ait parlé? Et le malheur pour nous, c'était même que l'honorable Machako, qui était le président de cette commission mixte, était mort. Et donc, la tristesse, c'était de voir que cette loi est restée alors orpheline. Moi, je crois que l'occasion a été donnée pour qu'on rappelle encore la représentation nationale.
Oui.
Qu'en même temps qu'ils sont en train de statuer sur les élections, qu'ils se rappellent qu'il y a des lois sociales qui traînent encore au Parlement. Mais moi, je suis en train de leur dire chaque fois, 13 millions, si cela s'avère certifié, parce que jusqu'à là, ce sont des estimations. Nous sommes déjà en pour parler avec les sociétés nationales de sécurité, de statistiques, pour voir comment avoir ce projet-là qui va faire cette identification, pour voir ensemble quel est ce chiffre. Mais si jamais 13 millions s'avère que c'est ça les chiffres, mais est-ce que ce sont les électeurs à négliger? Eux, ils sont au Parlement au nom de tous les Congolais qui les ont élus, et les personnes handicapées, et ça ne serait pas la fierté aussi des députés de quitter l'hémicycle en disant « grâce à moi » ou « grâce à tel », les personnes handicapées se voient épanouies, parce que je dois vous dire que la législation reste un élément clé pour l'épanouissement moral, intellectuel, physique, économique et social de personnes handicapées et de nous tous les Congolais. Je voulais aussi vous dire ceci.
Oui, pourquoi nous insistons,
sur les personnes handicapées? Parce qu'il y a un des auditeurs qui a demandé pourquoi on ne célèbre pas pour les autres. En fait, nous, au niveau du ministère des Affaires sociales, nous avons mis en exergue cette question parce que la personne handicapée est dans toutes les couches sociales. Il y en a comme enfants, jeunes, femmes, vieilles. Et donc, pour nous, si le déclic commence pour les personnes handicapées, ça sera un déclic pour toute la nation.
Voilà, on va poursuivre avec d'autres auditeurs qui sont en ligne. Clément Ndai qui nous appelle du Kananga, Malonga Bandundouville, Mbouya qui est à Malembakoulou. Si vous êtes également intéressé par ce sujet, comment améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec handicap en RDC, le numéro d'appel c'est le 099-706-6394, 099-706-6394. Clément Ndai, vous nous appelez de Kananga. Bonjour Clément.
Bonjour Marcel Ngombombala, bonjour aussi à l'invité. je m'avais plus vite encouragé, féliciter la dame pour son courage d'aborder de tels sujets. Alors je voudrais vous demander, je dis, il est vrai que, Marcel, parce qu'il est vrai que, à deux fois, les handicapés qui étaient dans certaines provinces pouvaient souffrir pour certains de se déplacer d'un milieu à un autre. Maintenant, je pense qu'avec les organismes, il y a certains qui ont bénéficié de guides et les autres qui ont bénéficié de chaises roulantes. Alors, ça les permet de se déplacer facilement d'un endroit à un autre. Mais ce que je voudrais demander à notre invité, voilà de telles occasions. Et pourquoi on ne veut pas normalement organiser certains centres de renforcement de capacité ou certains encadrements afin d'aider des pareilles personnes à se retrouver facilement et se croire intégrées dans la société. Voyez-vous que je le vois tout le temps sur les places publiques en train de tendre les mains et mendier, faire du n'importe quoi et deux fois ils sont vraiment maltraités à haut niveau là. Alors je demande à l'invité pourquoi le gouvernement ainsi que les organismes internationaux ne peuvent pas penser qu'il soit gouvernement provincial ou national, provincial plutôt ou national. Pourquoi ils ne peuvent pas penser, encadrer ces gens et puis les garantir? Alors la deuxième question que je voudrais demander à notre invité, par rapport au montant qu'il a donné là, est-ce que normalement ce montant-là, c'est d'attendre quelle année jusqu'en quelle année? Puisque normalement je vois, on peut se dire que non, hier ou avant-hier, il y a eu un mort, quelqu'un qui est né, mais handicapé. Est-ce qu'il a, il est aussi compté parmi les chiffres qu'il a donné? Voilà, et puis bonne journée, merci de m'avoir accordé la parole, Marcel.
Merci, Clément Daï, depuis Kananga. Malunga, vous êtes à Bandundouville. Bonjour, Malunga, on vous écoute.
Bonjour, Marcel, et bonjour à notre invité et à tous ceux qui nous suivent à ce moment ici.
Allez-y.
Ça va, très bien. Bon, en tout cas, le débat d'aujourd'hui est pertinent. Mais il faut d'abord différencier ces handicapés-là pour leur favoriser. Vous voyez, il y a plusieurs sortes de handicapés. Hein? Il y a un handicap mental, moral et physique. Alors, parmi lesquels, tout le monde normal est censé desservir, puisque tous les handicapés sont dans la classe des vulnérables. Or, une personne qui est normale, il est censé desservir et de secourir une personne aussi vulnérable. Ce que moi j'ai dit, pour le permettre aussi à s'adapter à une vie meilleure, moi je vois, il faut que le gouvernement organise ou bien ouvre un centre comme ça des handicapés. Ça est aussi, parce qu'il y a quelque part dans notre République, ça existe. Mais les handicapés ne sont pas bien centralisés et surveillés. Puisqu'on ne peut pas jamais, selon moi, on ne peut pas sélectionner une personne qui est physiquement normale avec une personne handicapée comme ça, dans un service. Parce qu'il y a le service qu'on peut travailler facilement, mais que l'handicapé ne peut pas travailler. Bon, les associés, c'est un peu difficile. Mais si les handicapés tous se trouvent dans un centre, dans un bureau, vous verrez qu'il y aura des travaux qui sont concernés seulement à eux, et ils peuvent servir aussi la nation à travers ça. Mais si on veut les servir comme les autres, en tout cas Marseille, on peut chanter seulement ici, mais ça ne tiendra pas.
Merci.
Parce que nous tous, nous sommes censés de les servir. Mais primordialement, c'est le gouvernement qui doit mettre ça en avant pour que nous tous aussi, nous accompagnons et le gouvernement et aussi les handicapés pour les mettre à une classe comme ça favorable de ce que l'invité vient de dire là-bas.
Merci Malunga d'avoir appelé depuis Bandundouville à Malimbankoul où nous retrouvons Bouya. Bouya, bonjour.
Bonjour, téléjournaliste. Oui, c'est Mbouya, auteur de Malimbankoul à Moulongo. Je voulais te dire ceci, téléjournaliste. C'est-à-dire, cette question, c'est une question qui a une grande importance. Mais cependant, il y a quelques questions que nous voulons nous poser, que nous voulons poser à l'invité. C'est-à-dire, ici chez nous, il y a même les handicapés qui se sont organisés, qui passent aussi leurs émissions dans une radio locale, le président Ken, je cite. Oui, quand même, maintenant, mon souci est celui-ci. Il semblerait que plusieurs organisations qui puissent se faire, se limiter dans des grands centres. Lorsque vous parlez de l'effectif que l'inviteur vient de nous donner là, je crois que on ne sait pas si les handicapés qui se trouvent ici chez nous sont du nombre. Et certaines œuvres, les chaises roulantes, les histoires, plusieurs choses qu'on peut compter, ça ne parvient pas à nos handicapés qui sont ici chez nous. C'est pourquoi nous voulons demander à l'invité pour qu'il y ait un peu un travail sérieux qui puisse considérer, car les handicapés se trouvent partout. Et tous les handicapés là ont besoin d'un coup de main pour qu'ils cherche à vivre comme il se doit. Et puis, une autre question. Je voudrais connaître, il y a certains handicapés qui n'ont pas la possibilité de pouvoir faire même un petit travail. Par exemple, quelqu'un qui a commis l'accident, les bras coupés, les jambes coupées. Alors, celui-là pourra, cet homme pareil, cette personne pareille, pourra-t-elle chercher à tendre, à être engagée ou soit il y aurait une façon de pouvoir commencer à l'aider régulièrement par quelque chose d'un peu matériel pour aussi gagner sa vie. Voilà un peu ma préoccupation, monsieur l'invité. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur Mbouya. Depuis à Mal et Makoulo, je me retourne vers vous, madame Alice Mirumo. Il faudra d'abord qu'on puisse faire une précision par rapport aux chiffres, hein, parce c'est que ça. Tout à fait. Il faut que les gens comprennent que ce sont des estimations.
Ce sont des estimations.
Les estimations autour des 13 millions de personnes vivant avec handicap. Et il y a cette question d'un auditeur de Kananga qui a cherché à savoir ces estimations datent de quand.
C'est ça. Ce sont des estimations qu'on a annoncées à l'occasion de la table ronde en juin 2016. Donc je disais que nous les avons annoncées à l'occasion de la table ronde en juin 2016. J'ai même signalé que nous allons commencer un travail fouillé avec l'Institut national de la statistique pour qu'on arrive à faire. Et là, c'est dans le cadre d'un projet que le fonds a, du moins qui a été aligné d'ailleurs dans le plan stratégique, parce qu'on doit organiser les bases de données sur la question du handicap. Et nous comptons donc appuyer l'enregistrement continu par type de handicap. Je crois qu'il y aura un moment où on aura vraiment de véritables chiffres. Mais nous ne pouvons pas non plus négliger ces chiffres estimatifs. Ce sont des chiffres interpellateurs pour nous réveiller. Sinon, la situation risque de se dégrader et nous risquons de nous réveiller en retard. J'aimerais répondre globalement à toutes les questions. Vous allez constater...
qui reviennent sur l'implication de l'État. Hein.
Non seulement l'implication de l'État, mais qu'est-ce que nous comptons faire, quelle est la vision, quelle est la démarche, et où est-ce qu'on veut aller, quoi. J'aimerais d'abord préciser ici que j'ai l'avantage d'avoir à ce jour l'engagement de la société civile, dans le cadre de la Haute Académie de la société civile. Et dans cette société civile, il y a aussi l'engagement des organisations de personnes handicapées. Ils contribuent beaucoup à faire des plaidoyers, à réfléchir ensemble avec nous pour avoir des solutions durables. Cela déjà nous permet d'avancer vers le concret. Alors je veux résumer en disant à nos compatriotes ceci. En 2010, quand ce processus a été lancé, c'était d'abord pour répondre aux problèmes de l'environnement juridique, politique, économique et sociale. Et dans cette question-là, j'ai l'avantage de vous dire que le seul environnement qui bloque encore, c'est par rapport à la législation au niveau national et par rapport aux moyens. Et tout cela parce qu'il y a un certain nombre de compromis ou de résistances qui sont encore observées. Mais sur les autres plans, sur le plan social, économique et dans l'environnement de planification, retenez que, en ce qui concerne les juridiques, notre pays est parti état à la convention grâce à des actes vraiment importants que j'ai toujours dit, signés par le chef de l'État. Et ça a même bousculé toutes les Nations Unies. Aujourd'hui, nous avons un appui permanent de la MONUSCO et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur la question du suivi de la mise en œuvre de cette convention. Deuxième élément important, c'était la planification. C'est pourquoi il y a eu les états généraux sur la situation des personnes handicapées. Nous avons fait la table ronde en juin 2016 sous le haut patronage du chef de l'État et nos compatriotes vivant avec handicap sont venus de toutes les 26 provinces accompagnés de leurs gouverneurs des provinces et des ministres provinciaux des affaires sociales. Et c'est ça le plan stratégique dont je viens de parler. Donc c'est un document qui a eu de l'adhésion de tous et même de nos partenaires. Alors, sur le plan de la coordination maintenant de ces activités, la population doit savoir comment fonctionne l'État. C'est le ministre des Affaires sociales qui coordonne toute la question du handicap et de toutes les vulnérabilités dans notre pays. Et donc, il y a un membre du gouvernement qui a ça comme charge au quotidien. Et au sein maintenant du ministère des Affaires sociales, nous avons les administrations des affaires sociales dans toutes les provinces. On les appelle des divisions provinciales ou divisions urbaines des affaires sociales. Et au chapeau de tout ça, il y a le secrétariat général des affaires sociales. Au sein de ce secrétariat général des affaires sociales, il y a des centres de promotion sociale et des centres pour handicapés. Au-delà de cela maintenant, le ministère travaille avec des ONG et des centres de prise en charge de personnes handicapées. Vous connaissez, il y a par exemple le centre pour handicapés physiques, oui, où nous avons célébré la journée le 8 décembre. Et donc, toutes ces structures, des organisations de personnes handicapées, travaillent ensemble avec le ministère pour s'occuper de la question. Donc, dans votre province, là où vous êtes, approchez ces services-là, ils vont vous aider.
Donc, vous avez des représentations dans toutes les provinces?
Bien sûr, c'est oui. Le ministère, c'est l'État.
Ah, il faut aller au niveau du ministère des Affaires sociales.
Des Affaires sociales. Oui. L'État est organisé jusque dans nos villages, là où il y a les chefs coutumiers. Il y a toujours des services des Affaires sociales. Quand vous parlez même de l'attestation d'indigence, c'est les Affaires sociales. Alors, maintenant, d'où vient maintenant le Fonds national de promotion des services sociaux? C'est cet établissement public qui s'appelait à l'époque Fonds du bien-être indigène et qui a été toujours cet instrument, ce véhicule financier pour construire toutes ces infrastructures et appuyer l'action sociale. Et c'est donc au sein de ce fonds qu'il a été créé la Caisse de solidarité nationale pour y loger tous les fonds sociaux en vue maintenant de financer les actions sociales et économiques, non seulement des personnes handicapées, je précise, mais de tous les vulnérables.
Que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat. Pour l'instant, n'arrive jamais.
Le fonds, pour l'instant, n'arrive pas parce que, comme je vous ai dit, il y a une mise au point importante, une décision importante qui doit maintenant être prise au niveau du Premier ministre, au niveau du ministre de Finances et au niveau du ministre du Budget. Qui jusque-là, ça fait maintenant une année qu'on attend cette décision. Et quand je vous ai parlé de la lettre de la présidence du 19 octobre, de l'audience que j'avais eu le 18 juillet, j'étais partie là, amenée par la société civile au niveau de la haute académie, pour que le Premier ministre se prononce, mon Dieu, parce que tout est mis dans le plan opérationnel 2017 du fonds. Tant que lui garde silence, tant que notre ministre de Finances garde silence, en fait, rien ne va décoller parce que c'est eux qui donnent le gong. Même les partenaires, il y en a beaucoup qui sont prêts. Même les sociétés dont j'ai parlé, il y en a beaucoup qui sont prêts à mettre les moyens dans les ressources. Donc ici, c'est une question maintenant de chaîne de responsabilité. Au niveau du ministère des Affaires sociales, nous avons fait notre part. Le Fonds national a fait sa part et a maintenant de mécanismes aujourd'hui de garantie et de crédibilité pour rassurer tout le monde. Les personnes handicapées elles-mêmes sont engagées. Vous n'allez plus les voir en train de se bagarrer. Les gens viennent dire, mais ils sont violents. J'ai dit non. Moi, les personnes handicapées que je connais ne sont pas violents. Ils sont prêts à réfléchir et ils réfléchissent. Ils sont prêts à faire le travail et ils le font déjà dans leur façon de faire. Et donc, il est question ici maintenant qu'au niveau de cette chaîne de responsabilité, chaque autorité se rassure qu'il a fait sa part. Et dans notre plan opérationnel 2017, nous avons indiqué ce que nous attendons de chaque autorité et à chaque niveau de décision.
Madame Alice, on va prendre rapidement les tout derniers auditeurs. Il s'agit de Évariste Kabima, qui nous appelait de Mujimaï, et Lusambo Santos, qui est à Kananga. On m'ajoute encore à JKM Kamako. J'espère qu'on aura rapidement le temps pour les écouter tous les trois. Évariste Kabimba, vous êtes à Mujimaï. Bonjour Évariste. Rapidement, quelle est votre question par rapport à ces sujets?
Bonjour Marcel. Bonjour à l'invité.
Oui, bonjour. Allez-y. Quelle est votre question? Votre question directement.
Okay.
Oui.
Ok. La question est la suivante. Pourquoi les personnes vivant avec handicapé ne se trouvent pas dans notre gouvernement actuel?
Voilà, c'est votre seule question, Évariste, c'est ça?
Oh, et d'ailleurs, j'ai encore une préoccupation. Monsieur le journaliste, la Constitution congolaise, à son article 40, stipule que toute personne a droit de se marier à une personne de son choix.
Oui.
Mais dans mon quartier, il y avait un frère qui s'était marié à une albinos, pour bien dire. Quand le monsieur avait amené la fille à la maison, le papa avait dit non. Moi, je n'aime pas de telle sorte de personnes. Pourquoi tu es parti te marier à une albinos? C'est comme ça, je ne te donne pas la dot. Aller chercher ta dot propre et aller donner. L'homme l'a aimé, l'albinos, très bien. Pour l'inviter, c'est très bien de se marier avec les albinos ou bien c'est mauvais.
Merci, Évariste Kabima de Pimbujima. Lusambo Santos, vous êtes à Kananga. Bonjour, Lusambo. Le Sambo, vous êtes en ligne? Il me semble qu'il n'est plus en ligne. JKM est à Kamako. JKM, bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, vous écoute, JKM. Quelle est votre question par rapport à ces sujets sur les conditions de vie des personnes vivant avec handicap? Votre question.
Oui, bonjour, monsieur le présentateur, et bonjour, monsieur l'invité. Je sais bien que l'handicapé, c'est une personne incapable de supporter la charge. Mais nous voyons maintenant la plupart des familles ici au Kassai, précisément à la frontière de Kamako, nous avons des handicapés. Je voulais aussi demander à notre invité qu'il nous dise quel est l'avantage d'un handicapé ici au Congo et selon les pensées de notre gouvernement du Congo.
Merci JKM. Depuis Kamako, Madame Alice Mirimo, vous répondez rapidement à toutes ces questions.
En fait, j'aimerais rassurer surtout celui qui a parlé du mariage. Que maintenant, c'est l'inclusion socio-économique. Parler d'inclusion signifie la non-discrimination. Oui. On ne peut pas refuser à quelqu'un de s'épanouir. Nous avions d'ailleurs raté une occasion belle parce qu'on n'a pas eu les moyens. L'État n'avait pas mis les moyens à notre disposition. On avait prévu de faire une célébration publique des personnes albinos qui voulaient se marier, d'autres aux non-albinos et vice-versa. Mais je pense qu'on fera ça un jour. J'aimerais aussi rassurer tout le monde que c'est vrai, on est encore dans les plaidoyers, mais il y a quand même quelques projets qui sont déjà en cours. Nous venons de Phoenix à Arizona aux États-Unis, où le ministre des Affaires sociales a lancé le processus de collecte des matériels médicaux et orthopédiques en faveur de nos compatriotes vivant avec handicap. Quand ces matériels arriveront, nous ferons en sorte que ça arrive dans toutes nos provinces. Et comme le fonds est en train de s'activer pour qu'il y ait des ateliers protégés, au moins un par chaque chef-lieu des provinces, nous pensons que ces aspects d'accès au matériel orthopédique vont être organisés très rapidement. Et nous avons l'avantage d'être dans ce projet avec le ministère de la Santé, et c'est ensemble avec l'ONG américaine Projet Cure. Donc ça, c'est quand même un projet très concret parce que ça nous fait mal de voir nos compatriotes marcher à quatre pattes. C'est pas bon. Il y a aussi un autre projet intéressant qui est en cours. C'est par rapport à... Nous voulons aider, au fait, l'administration des affaires sociales à avoir un corps des interprètes des signes. Notre pays n'a pas le langage des signes, au fait, du niveau national. Et nous sommes en train de travailler déjà avec quelques organisations de sourds pour que nous puissions aider le pays à avoir les signes, le langage des signes national et un corps d'interprète des signes. Et donc, il y a beaucoup d'actions comme ça qui sont en cours, qui se font encore de façon peut-être modeste, mais qui vont déclencher tout un mécanisme. Et j'ai même dit dans mon discours pendant la journée du 8 décembre, quand on a célébré, que nous tous, les Congolais, nous avons intérêt à appuyer ce processus. Nous avons intérêt à revendiquer que les autorités y mettent leur attention particulière. Parce que la mise en œuvre de tous ces projets, ça va créer les emplois d'abord pour nous, les Congolais. Ça va faire la promotion de notre économie nationale. Donc, chacun de nous devrait prendre ça en main et dire non, sachant aussi, comme je le dis, que nul n'est à l'abri. Et sachant aussi que grâce à la solidarité, nous pourrons faire des grandes choses.
Si je comprends bien, Madame Alice Mirimo, le projet, le plan quinquennal est bel et bien là, un plan qui est bien confectionné.
Effectivement, bien confectionné et qui a connu toutes les exigences de planification. Donc au préalable, il y a eu cette enquête, il y a eu l'identification des besoins, il y a eu la définition des axes stratégiques qui répondent à chaque besoin constaté et exprimé, et tout un chronogramme et un budget.
Et pour l'instant, vous avez les yeux tournés vers l'Assemblée nationale par rapport à cette loi portant protection des personnes vivant avec handicap.
Effectivement.
Et également par rapport au gouvernement.
Pour démarrer avec la Caisse de solidarité nationale. Parce que tous les partenaires ont exigé que le gouvernement se prononce clairement en disant il commence avec combien dans cette Caisse de solidarité nationale. La loi budgétaire est à l'Assemblée nationale. C'est une occasion pour faire encore un plaidoyer auprès des honorables députés. Quand ils vont voir le budget du ministère des Affaires sociales, ils ont intérêt à le soutenir aux besoins, ajouter des crédits supplémentaires pour que la Caisse de solidarité nationale décolle. Parce que ça va aussi soutenir leurs provinces respectives et leurs électeurs pourront trouver la solution.
Madame Alice Mirimo, merci d'avoir été des nôtres. Nous rappelons que vous êtes directeur général du Fonds national de promotion des services sociaux. Avec vous, on a parlé de comment améliorer les conditions des personnes vivant avec handicap en RDC. C'est un grand plaisir d'être avec vous dans
ces
studios.
C'est moi qui vous remercie.
On espère vous retrouver prochainement.
Je suis là, je serai là encore.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bye.